Que se passe-t-il au moment de l'adolescence pour que tant de garçons et de filles de cet âge perdent la foi, abandonnent progressivement, brutalement toute pratique religieuse, qu'assez peu d'entre eux retrouveront par la suite plus tard? Et combien ai-je vu d'adultes qui ont témoigné de ce décrochage au moment de l'adolescence, avec la foi vivante de leur enfance? Alors, beaucoup, la plupart, se disent encore croyants, mais ils ont quitté l'Église. Ils viennent quand même s'y marier, ils viennent baptiser leurs enfants, et dans le meilleur des cas, les enfants font leur première communion, avant leur tour de décrocher, au moment du collège ou du lycée. Je dirais presque que se passe-t-il désormais au moment de l'adolescence, tant ce phénomène est nouveau dans son ampleur. Et c'est pourquoi je ne crois pas vraiment à ce qui relèverait ce qu'on pourrait appeler familièrement une crise hormonale. Sinon, elle serait de tous les temps et de tous les pays. Je ne crois pas plus à ce qu'on pourrait estimer le travail de la raison, pour ne pas dire de l'intelligence. L'adolescence n'est pas spécifiquement le temps de la réflexion. Elle est bien plus le temps de l'enthousiasme. Et justement, l'adolescence devrait s'enthousiasmer pour le Christ. L'homme libre, le modèle de la liberté, le modèle de la générosité, du partage, s'enthousiasmer pour son combat, pour la justice, pour sa défense des tout-petits. Il y a un mois exactement, le 6 juillet, je suis allé à Rouen pour voir un ami de très longue date, depuis plus de 40 ans. Parce que ses médecins venaient de lui dire que c'était fini. C'était la fin. Après quelques mois, plusieurs mois, voire des années de traitement de plus en plus lourd, ils arrêtaient et lui-même était médecin et donc savait bien que c'était fini. Et nous avons parlé 2 heures ensemble comme rarement il est possible de le faire. Il m'impressionnait pas. Sa lucidité, sa force. Et justement, ce qu'il m'a raconté, c'est cela. Il était très croyant, enfant. Il a dit, jusqu'à sa confirmation, jusqu'à l'adolescence. Et puis, il avait décroché. Il continuait quand même à croire, un peu comme une évidence, en particulier devant la création qu'il aimait tant. Il croyait effectivement qu'il y avait un Dieu créateur. Devant le bonheur de sa famille, même plus largement, toute sa passion pour les œuvres d'art, son amour de la vie. Ça a été un moment extrêmement intense. Je l'ai confessé. Probablement, il n'avait pas vécu ça depuis l'adolescence. Et je lui ai promis que je viendrais célébrer ses obsèques le moment venu, ce que j'ai fait il y a 15 jours. Et je lui ai d'ailleurs demandé ce qu'il voudrait que je dise à ce moment-là, quelle était la qualité, le trait qu'il voulait qu'on retienne de lui. Et il m'a dit « honnête ». C'est beau ça, « honnête », il a ajouté « travailleur », ce qui était vrai, respectueux des personnes, pétri de valeurs chrétiennes. Mais « honnête », ça, il l'était. Et je me suis dit, combien d'entre nous, fidèles pratiquants, combien d'entre nous pourront dire cela à l'heure de notre mort? Pourront dire cela au Seigneur? Si déjà nous, catholiques, nous étions une référence en la matière, en disant, catholique, voudrait dire honnête. Pas seulement pas osé à voleur, non, honnête. Le contraire de la mauvaise foi, c'est ça, genre malhonnête intellectuellement, de mauvaise foi. Revenons à mon ami. Il n'avait jamais rencontré le Christ. Jamais. Et je lui dis que c'est ce qu'il s'apprêtait à vivre. C'est ça la mort. Il allait rencontrer le Seigneur, qu'il n'avait jamais rencontré personnellement de sa vie. Alors il s'est un peu inquiété de ces dogmes auxquels il n'accrochait toujours pas, le purgatoire, l'enfer, le paradis. Je l'ai rassuré, je lui ai dit non, mais ce sont des outils. Des outils pour se préparer. Je lui demandais ensuite, est-ce que ce sont ces notions, toutes ces catégories, qu'il avait rebuté, qu'il avait éloigné. Vous savez, ces sortes de ces tiroirs de pensée dans lesquels l'homme et la femme moderne, on va pas dire refusent, sont incapables de se ranger, d'entrer. Surtout si leur adolescence les a enfermés dans une singularité, dans le respect, dans l'affirmation de leur singularité. Ah, maintenant, je ne suis pas comme ça, moi. C'est pas pour moi, je ne suis pas comme les autres. Quand même ça, le risque de la crise de l'adolescence. Non, pas comme les autres. S'il y a un homme dans l'histoire qui aurait pu dire cela, qu'il n'était pas comme les autres, je vous en ai parlé dimanche dernier, c'est Blaise Pascal. Pascal par son génie. Lui, certainement, pas comme les autres. Et il a vécu à 31 ans, pas à 15 ans, à 31 ans, une rencontre exceptionnelle du Christ. Sa nuit de feu, il l'a appelé comme ça, une expérience mystique. Le pape en parle dans la lettre qu'il lui a consacrée, la comparant avec, justement, la rencontre de Moïse au buisson ardent. Moïse au buisson ardent, et le pape l'écrit, le terme « feu », que Pascal a placé en tête du récit, de ce qu'on appelle le mémorial, propose ce rapprochement. Et c'est un parallèle qui semble indiqué par Pascal lui-même, qui reprend le titre que le Seigneur s'était donné devant Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, en ajoutant, c'est ce que Pascal ajoute, nom des philosophes et des savants, et il y a cette ligne que vous connaissez, cette phrase qui résume tout, sublime, où Pascal écrit « Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. » L'expérience que Moïse a faite au buisson ardent, qu'il a faite sur la montagne sainte, sur l'Horeb, lorsqu'il était blotti dans le creux du rocher, que le Seigneur est passé, la même expérience que Élie a vécue sur la même montagne, l'Horeb. Tous deux ont vécu une expérience personnelle, cette rencontre de Dieu. Tous deux ont vu la lumière divine. Eh bien, les apôtres l'ont vécu à la transfiguration. C'est ça le récit de la transfiguration. Quand leur foi est devenue certitude. Certitude, sentiment de joie, sentiment de paix. Dieu de Jésus-Christ. Comment faire pour vivre cela? Évidemment, ça fait envie. Évidemment, on le sait aussi, c'est un mystère, ça nous dépasse. Disons quand même qu'on fait cette expérience, cette rencontre du Christ, à force de le suivre. On ne suit pas le Christ quand on a fait cette expérience, c'est plutôt le plus souvent, c'est l'inverse. C'est à force de le suivre, comme les apôtres. Autrement dit, il faut déjà le vouloir. Et Pascal, il est d'ailleurs justement l'écrivain, on pourrait même dire le théologien, de la volonté. Il l'appelle le cœur. Et ce que Pascal appelle le cœur, c'est la volonté. La volonté a des raisons que la raison ignore. La volonté de trouver Dieu, la volonté de trouver l'amour, de vivre de l'amour de Dieu, la volonté de trouver la vérité. Eh bien, ce récit de la transfiguration donne quelques-unes des conditions nécessaires à la volonté. Pour que notre volonté puisse se déployer. D'abord, un minimum de courage. Soyez sans crainte, dit Jésus. N'ayez pas peur. Et il peut leur dire cela, et ils peuvent l'entendre de la part de Jésus, parce qu'il est, depuis qu'ils le suivent, depuis qu'ils le connaissent, le modèle absolu du courage. Et on peut relire tout l'évangile ainsi. On dit, la liberté, on a raison. Sa bonté, sa générosité. Son courage. Et pour nous tous, adultes, parents, éducateurs, il faut garder en tête que le courage se transmet par l'exemple. Ce qui nécessite de pouvoir surmonter la peur qu'on a pour nos enfants, pour les générations à venir. Si on veut que ces générations puissent grandir. Garder la foi, pour garder la foi courageusement. Et pour cela, nous devons commencer, nous adultes, par reconnaître nos contradictions, non pas s'y résigner, mais les assumer pour les combattre, toutes nos incohérences sur le plan religieux. Deuxièmement, il faut pouvoir montrer et rappeler que ce qui est transcendant peut être sublimement beau. C'est ça, l'événement de la transfiguration, un mystère de beauté inouï. Le beau est forcément transcendant. Il dit quelque chose de Dieu. La beauté du Christ transfiguré, impossible à représenter. Bien sûr, il y a des icônes, il y a eu quelques tableaux, mais en réalité, quand on lit ce texte, impossible à représenter. L'évangile de Saint-Marc dit que ses vêtements ont été d'une blancheur telle que personne ne peut en avoir sur terre. Certains disent que c'est pour ça qu'il y a la lessive Saint-Marc qui a usurpé ce titre. Mais il faut simplement dire que le beau, oui, il est transcendant. Et troisième condition, écoutez-le, dit la voix du Père. Et pour nous tous, parents particulièrement, écoutez vos enfants, vos petits-enfants, écoutons les adolescents, tous ceux qui, effectivement, nous sont confiés attentivement, de leur donner au moins ce temps pour que chaque personne se sache entendu, écouté. C'est avec Jésus-Christ, la première fois dans l'histoire, au moment de son baptême, mais ici à la Transfiguration, la première fois dans l'histoire qu'un Père, une autorité supérieure, paternelle et pas n'importe quel Père, notre Père des cieux, dit d'écouter son Fils, pas « écoutez-moi ». Mais d'écouter son Fils, et à travers cela, nous pouvons tous l'entendre, aux parents et à tous ceux qui sont investis d'une certaine autorité, d'écouter les enfants, tous ceux qui leur sont confiés. Et enfin, soyons sensibles à ce que ce Père, notre Père du ciel, dit de Jésus. Il est son bien-aimé et il trouve en lui sa joie. C'est beau ça, la joie de Dieu. Si nous pouvions dire cela, vivre cela en Jésus-Christ, nous trouvons notre joie. La joie d'être protégé par son courage, la joie d'être émerveillé devant tant de beauté, la joie d'être écouté. Et c'est ainsi que la foi ne devient pas, on peut dire, adulte, c'est pas forcément une bonne expression, on dit aussi une foi vécue. Non, c'est ainsi que la foi devient certitude. Certitude, sentiment et de paix et de joie, Dieu de Jésus-Christ. Quelle joie quand la foi devient certitude.